Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, on est en tête-à-tête, toi et moi, et on va parler de visibilité. Alors, tu fais probablement partie de la majorité des profs de yoga qui ont un compte Instagram, peut-être une page Facebook, une ébauche de site sur Wix ou Squarespace, et tu donnes probablement, depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant, des cours en ligne sur Zoom. Et quand tu me dis que tu aimerais te faire connaître, je sais à peu près ce que cela signifie. En général, même si tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de followers et qu'il faut des abonnés qualifiés, eh bien, tu aimerais bien quand même faire grimper ton compteur de followers sur Instagram. Tu aimerais bien plus de likes sous tes posts et plus d'élèves à tes cours en ligne. Et tout ça, finalement, c'est tout à fait légitime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi les trois stratégies qui ont fonctionné pour moi pour me faire connaître et réussir à vivre de mon activité en ligne parce qu'elles sont tout à fait applicables à ton business de yogipreneur. Je vais donc te dévoiler dans cet épisode comment j'ai doublé ma liste email grâce à ma stratégie de contenu, comment j'ai eu mon premier article dans la presse et comment j'ai doublé mon nombre de followers qualifiés grâce à un challenge. Alors avant de commencer, si tu écoutes cet épisode le jour de la sortie, c'est-à-dire le lundi 3 mars, tu as jusqu'à jeudi 6 mars pour rejoindre la liste d'attente dédiée à ma formation « Créer et lancer un challenge qui convertit » et bénéficier du lancement de ce Yogi Pack Challenge à un tarif exceptionnel. Je vais même te dévoiler un petit indice. En gros, tu en auras pour une commande de sushi à emporter pour deux personnes. Pas plus, à peu près. Et si tu as manqué cet événement à l'heure où tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à venir faire un tour dans la bio de mon compte Instagram, @yogibizcoaching. Peut-être que le Yogi Challenge Pack est encore là pour toi. Avant de te révéler mes trois stratégies, je voudrais juste en préambule qu'on discute un petit peu sur la définition de ce qu'est la visibilité et quelques concepts associés à ça. Donc, être visible pour nous, profs de yoga, c'est réussir à se faire connaître par de potentiels futurs élèves sur le net et ou dans notre ville et que ces personnes suivent le chemin, on va dire l'entonnoir hein, du no-like trust dont je parle souvent, donc se faire connaître, faire apprécier nos contenus et puis trust, du coup, c'est l'engagement, la fidélité jusqu'à la conversion et donc bah, justement jusqu'à devenir nos clients en consommant nos offres payantes, que ce soit nos cours, nos ateliers, nos retraites, nos programmes ou nos memberships. Donc, être visible pour un prof de yoga, c'est réussir à se faire connaître par de potentiels futurs élèves sur le net et ou dans sa ville et que ces personnes le suivent jusqu'à devenir des clients en consommant ses offres payantes. C'est donc développer cette notoriété pour avoir un flux d'abonnés en continu, un flux d'abonnés grandissant et vivre de notre activité de yoga pleinement. Maintenant qu'on s'est dit ça, j'aimerais qu'on relativise quand même sur le se faire connaître. Alors, je trouve que c'est une bonne idée d'associer ce concept de vouloir à tout prix se faire connaître, tout le temps développer, booster, optimiser, améliorer sa visibilité. Je trouve que c'est une bonne idée d'associer ça à un chiffre. Parce que finalement, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir de combien de followers, on va utiliser ce terme-là dans l'épisode d'aujourd'hui, Combien de followers tu avais besoin pour vivre raisonnablement de ton business? Parce que oui, évidemment que c'est important d'attirer régulièrement de nouveaux prospects, mais ce que j'aimerais, là où j'aimerais attirer ton attention en soulevant cette réflexion, c'est que tu ne sois pas non plus dans la frustration inutile de ne jamais en avoir assez ou de penser que tu n'en as pas assez, ou à l'inverse, du coup, d'être dans la frustration de toujours en vouloir trop et en vouloir plus. Et pour ça, je vais déjà t'inviter en préambule à faire un petit exercice et à réfléchir à deux questions. La première question, c'est combien de personnes penses-tu être en mesure de servir? À combien de personnes penses-tu être en mesure d'offrir ton yoga? Donc, pour répondre à cette question, tu peux déjà faire le point sur tes créneaux disponibles, les créneaux que tu réserves, que tu dédies à ton enseignement et le type d'offre que tu proposes. Si par exemple, tu ne peux pas proposer plus de X cours dans la semaine et que ce sont des cours en visio, donc peut-être avec un nombre d'élèves limité, ça fait partie de ta promesse, le fait peut-être de dire « je vous vois et je peux vous corriger », donc dans ce cas-là, tu ne peux pas avoir 80 élèves par exemple à ton cours comme un cours en streaming par exemple, eh bien peut-être que tu arriveras à la conclusion en faisant ces calculs, du coup, que tu ne peux pas servir, par exemple, en moyenne, plus de 80 élèves par semaine. Ou encore que tu ne peux pas prendre plus de 4 élèves en cours privé par mois, par exemple. Ou encore que tu ne peux pas ouvrir ton coaching collectif de 3 mois, si par exemple on est dans le cadre d'un programme avec un coaching collectif, à plus de 8 élèves. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de ton programme est fait de manière à aussi accompagner peut-être, avoir certaines choses personnalisées. Bref, en fonction de ton business model, de celui que tu as choisi et de celui en fonction duquel du coup tu as créé tes offres et qui normalement doit correspondre aux impératifs de ta vie privée, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir par exemple plus de 10K d'abonnés sur ton compte Instagram ? Donc voilà, c'est juste cette petite réflexion. Je voudrais quand même que tu gardes toujours cette notion à l'esprit. Alors, ne nous méprenons pas, hein. Bien sûr que je t'encourage à attirer le plus de monde possible. Mais ce que je dis, c'est que parfois, c'est bien de mettre des chiffres sur nos actions pour se rendre compte que finalement, ce qu'on veut, quand on dit je veux me faire plus connaître, je veux avoir plus de followers, etc., en réalité, c'est accessible et on n'a pas besoin de se torturer avec une course ou toujours plus. Je pourrais aussi aborder d'ailleurs le sujet de s'occuper déjà très bien de ses followers actuels que l'on a pour les fidéliser, être sûr que on a des offres qui répondent à ce qu'ils veulent. Voilà, et donc leur parler régulièrement, leur apporter de l'intention, créer des offres déjà pour eux qui nous suivent. Voilà, on pourrait déjà passer du temps là-dessus. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc voilà, déjà cette première réflexion de mettre en perspective finalement le temps, le nombre de cours et le nombre de personnes que tu peux servir avec ton yoga. Et essayer de te projeter sur finalement par rapport à ça. Est-ce que tu as vraiment besoin de te faire connaître par des millions de personnes? Est-ce que tu as vraiment besoin de tout le marché? Ou est-ce que effectivement on a souvent un petit peu aussi en termes de followers les yeux plus gros que le ventre et on a peut-être déjà soit ce qu'il nous faut potentiellement ou en tout cas le nombre de personnes à aller chercher est très accessible. Et il suffit de mettre un plan d'action concret derrière. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, avec près de 2000 abonnés, si on prend sur Instagram, et près de 1000 abonnés à ma newsletter, globalement, j'ai un business aujourd'hui qui tourne. Alors, ça n'empêche pas qu'il va falloir que je l'alimente en permanence, c'est OK. Mais voilà, j'ai pas non plus besoin d'avoir 20 000 abonnés pour faire fonctionner mon business. Alors, après, la deuxième question qui a un peu la même finalité que la première, mais sous un angle différent, c'est de partir de ton objectif de chiffre d'affaires. Parce que là, effectivement aussi, en fonction de nos situations chacun, on peut avoir des objectifs, des ambitions de chiffre d'affaires qui peuvent être différents. et différente. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais objectif de chiffre d'affaires. Il y a celui qui te convient, encore une fois, par rapport à ta situation, ta vie personnelle, ta vie professionnelle, là où tu veux aller, ta vision à moyen long terme de ce que tu veux que soit ta vie. Donc ça, c'est propre vraiment à chacun. Et donc, je te suggère aussi de prendre éventuellement ce sujet-là par ce bout-là, en fait, et de te dire, OK, combien est-ce que tu veux réaliser de chiffre d'affaires cette année? Et donc, après, ça fait combien de chiffre d'affaires par mois en moyenne? Quelles offres tu as aujourd'hui pour atteindre ces objectifs? Et donc, là encore, combien de ces offres tu dois vendre et à combien de personnes pour atteindre tes objectifs? Donc là aussi, il est probable que tu te rendes compte que finalement, tu es dans un système qui est complètement atteignable et que certes, tu as besoin de développer ton audience parce qu'il faut alimenter l'entonnoir de prospects en permanence, mais tu n'as peut-être pas besoin non plus, là encore, d'aller chercher des millions de followers. Alors, le deuxième risque hein, de te poser, de faire un petit peu le point sur tout ça, et notamment sur ce deuxième aspect avec tes objectifs de chiffre d'affaires, c'est probable qu'en faisant cet exercice, du coup, tu te rends compte peut-être que tes offres, du coup, ne sont pas viables pour atteindre tes objectifs de chiffre d'affaires et donc de revenus. Là encore, c'est un autre sujet que j'aborderai pas donc aujourd'hui, qui est celui de te créer une activité rentable et donc de bien choisir les offres à créer aussi en fonction de tes objectifs et de là où tu veux aller. Donc peut-être que cette deuxième question va soulever ce challenge-là et donc dans auquel cas c'est OK aussi hein, et c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, en te posant ces deux questions, ça te fera relativiser sur les millions de followers dont tu n'as pas besoin et ça te permettra de te fixer des objectifs accessibles de nouvelles personnes à toucher. Ou bien donc ça te challengera sur le fait de créer des offres plus rentables comme peut-être un programme, un membership ou des ateliers plutôt que des cours à l'unité. Et si ça provoque ça, bah, quelque part c'est très bien aussi et je suis là pour t'aider par rapport à ça. Alors ensuite, il y a une deuxième chose que j'aimerais te confier au sujet de la visibilité. C'est une formule toute simple. Une formule que j'ai créée, hein, une formule qui dit E égale V. E comme effort pour effort égale visibilité. Donc E égale V tout simplement. Je tiens quand même à préciser en préambule de cet épisode que oui, se faire connaître, c'est du job, c'est du travail. Ça demande de la stratégie, enfin quelle que soit la stratégie que tu vas choisir ou les stratégies que tu vas mettre en œuvre, ça demande forcément du travail, de la régularité et du temps. Il n'y a malheureusement pas de formule magique. Et d'ailleurs, je voulais te raconter une petite anecdote à ce sujet. Un jour, on m'a dit « Oui, mais toi, c'est ton travail de créer du contenu. » Alors, dit comme ça, non, c'est faux. Mon travail aujourd'hui, c'est de former et d'animer les élèves de mon programme Yogi Bizline. Donc, j'anime plusieurs modules live par semaine pendant 3 mois et d'animer plusieurs séances de plusieurs heures par semaine de coaching personnalisé pour les clientes que j'ai en coaching personnalisé. Et ça, ce sont mes offres et c'est ce qui me permet de vivre de mon activité. C'est donc comme pour toi, en fait, tes cours de yoga, que ce soit des cours privés, collectifs ou si tu as une plateforme de streaming, par exemple, quand tu es en train d'enregistrer des vidéos de yoga pour ta plateforme, c'est comme quand moi, je suis en train d'enregistrer les modules de formation de mon côté. Et ça, c'est mon travail au service de mes offres payantes. Seulement, si je ne fais pas ce travail de création de contenu gratuit, donc bah, mes épisodes de podcast, mon compte Instagram, la création de ressources à télécharger, éventuellement de masterclass ou d'interviews sur d'autres podcasts ou autres, comment je vais attirer de nouveaux clients pour participer justement à mes programmes et à mes coachings payants? Si je me concentre uniquement sur les clients que j'ai actuellement et je mets en off toute cette création de contenu, en fait, qui est ma prospection hein, indirecte, ben à un moment donné, je vais plus avoir de clients ou je vais manquer de clients. Donc, en ce sens, oui, créer du contenu, c'est mon travail, mais c'est aussi le tien, au même titre que c'est le mien, et c'est non négociable, en fait, cette création de contenu quand on veut développer son business, parce que c'est ce qui sert à montrer son expertise, c'est ce qui sert à parler de ses offres, c'est ce qui sert justement à attirer de nouvelles personnes. Et donc, toi comme moi, on doit trouver le temps de le faire si on veut justement que l'entonnoir continue de s'alimenter d'élèves potentiels, de clients potentiels en continu. Donc non, la création, c'est pas mon job, pas plus que la création de contenu, c'est pas mon job, pas plus que toi. C'est juste que c'est un incontournable et qu'on doit y dédier peut-être 50% de notre temps par rapport au reste de notre activité. Ça doit faire partie de nos priorités si on veut communiquer sur notre activité et finalement bah, prospecter et faire venir des clients à nous. Sinon, tout s'arrête. Enfin, c'est impossible de développer un business si on ne passe pas par ça, en fait. Donc, c'est en ce sens que je précise, oui, qu'à un moment donné, pour être visible et pour se faire connaître, bah, il faut accepter que c'est du travail, ça fait partie de notre job de yogipreneur, que ça va prendre du temps, que c'est de l'investissement et qu'il faut en passer par là. C'est non négociable pour pouvoir continuer à développer sereinement notre entreprise. Et puis, une dernière chose pour se faire connaître, c'est qu'il faut oser. Il faut oser se montrer, il faut oser démarcher, il faut oser s'exposer. Et là, j'ai juste, je vais passer rapidement parce que du coup, on est plutôt sur du mindset et c'est pas l'objet de cet épisode. Mais en tout cas, juste, hein, moi, j'ai toujours un peu ça en tête. Quel est le risque à oser ? Quel est le risque d'oser ? Un refus de collaboration ? Ok, honnêtement, ça fait moins mal que des ischiorettes dans Chien tête en bas à 7h du matin. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, je préfère qu'on me refuse une collab que des fois, je souffre sur mon tapis avec mes ischios tout raides. Donc voilà, peur d'être ridicule auprès de qui ? Vos confrères, vos consoeurs ? Moi, je pars du principe que si elles ont le temps de regarder ce que vous faites et peut-être de se moquer ou autre, c'est qu'elles-mêmes ou eux-mêmes ne doivent pas franchement être débordées de travail. Parce que croyez-moi que quand son business tourne, on n'a vraiment pas le temps de passer ses journées à regarder ce qui se passe sur Instagram. On se concentre sur nos abonnés, nos commentaires, nos DM. Et c'est déjà beaucoup, ça prend déjà beaucoup de temps. Donc, on n'a pas forcément d'aller regarder plein de stories, de comptes, etc. On va scroller un petit peu, je pense, tous les jours comme tout le monde. Mais franchement, moi, j'ai jamais aussi peu consommé Instagram que depuis que mon business tourne et que du coup, Instagram est vraiment mon outil. Et donc, je privilégie mon compte, mes abonnés. Je fais tout ce que je peux pour répondre rapidement, pour être présente. Mais le reste, sincèrement, j'ai pas le temps. Donc, voilà. Enfin, c'est pour ça qu'il faut oser. Pas avoir peur d'être ridicule, pas avoir peur d'un refus. Enfin, c'est rien, ça passe, c'est OK. Et dernière petite chose par rapport à ça aussi, sur le fait d'oser. Je vois des comptes Instagram, honnêtement, avec des superbes posts, des jolies couleurs, des belles citations, des belles photos, mais malheureusement, jamais aucune prise de parole. Alors, même si elle n'est pas face cam, hein, entendre une voix, voir une démonstration de yoga, jamais de prise de parole, jamais de discussion, jamais de choses un peu live, jamais de choses où on a le sentiment qu'on rentre un petit peu, on crée du lien avec la personne. Donc, je sais que c'est rude ce que je dis, mais faut donner un peu de sa personne, justement, si on veut créer du lien. Poster des photos sur son compte, ça suffit pas. Ok, donc je dis pas qu'il est nécessaire de se montrer à tout va, mais dans la vraie vie, on vous voit, on vous entend, vous parlez, vous bougez, et c'est aussi ça qu'on a envie de voir en fait sur les réseaux et dans votre contenu pour aller vers vous. Donc, bah oui, se faire connaître, ça a un prix, celui de sortir de sa zone de confort un petit peu, mais sinon, si vous restez dans ce concept d'image figée et que vous n'osez pas sortir du cadre, bah ça va être difficile d'espérer des résultats différents ou d'espérer de vous faire mieux, plus et plus vite peut-être connaître. Voilà, donc c'était les petites choses sur lesquelles je voulais faire, pas une mise au point, mais je trouve que c'est important de parler de tout ça parce que c'est peut-être aussi 50% de la réussite des stratégies que vous allez mettre en place, en fait. Tout ça, ça y contribue aussi d'avoir ça à l'esprit, d'avoir ce mindset à l'esprit, ou encore, comme on l'a vu en préambule, de poser des objectifs précis sur ces actions et sur là où on veut aller en termes de visibilité et de se faire connaître. Maintenant, c'est l'heure de passer aux trois stratégies concrètes qui ont fonctionné pour moi. Alors, la stratégie zéro, dont je ne parlerai donc pas aujourd'hui, parce que c'est un sujet là aussi à part entière, c'est bien évidemment mon positionnement, hein, le fait de m'adresser dans cet univers du marketing digital uniquement aux profs de yoga. Et ça, c'est incontestablement la base de la réussite du développement de mon activité. Donc là-dessus, à bon entendeur, et c'est d'ailleurs parce qu'on n'a pas besoin de millions de followers et de toucher tout le monde qu'il ne faut pas avoir peur de se nicher ou de trouver son élément différenciateur. Mais ça, je n'en parlerai donc pas aujourd'hui, c'est la stratégie zéro. Stratégie numéro 1, comment j'ai doublé ma liste email grâce à ma stratégie de contenu. Donc, je le disais en introduction, quand on parle de contenu pour se faire connaître, souvent, tu penses directement à ce que tu postes sur Instagram, à tes posts Instagram. Contenu égale post Instagram. Souvent, on fait ce raccourci-là. En réalité, une stratégie de contenu efficace, elle se résume pas à ta présence sur un réseau social. Pour développer ta visibilité de manière organique, tu dois créer du contenu qui, d'une manière ou d'une autre, est référencé. Donc, du contenu que l'on peut retrouver grâce à un moteur de recherche. Et c'est le cas d'un contenu comme le podcast qui, donc d'ailleurs pour moi, hein, a été un vrai accélérateur de visibilité. Mais c'est aussi le cas pour du contenu comme des vidéos sur YouTube. Alors bien évidemment, si tu proposes autre chose qu'une séance de vinyasa de 20 minutes, parce que là effectivement tu seras noyé dans la masse. Et c'est donc aussi le cas d'articles de blog que d'ailleurs tu peux associer à une bonne stratégie Pinterest et qui va t'assurer du coup du trafic. Donc ces trois contenus-là, podcast, vidéo sur YouTube et articles de blog, sont des contenus référencés, sont des contenus qu'on peut trouver par les moteurs de recherche, par Google notamment. Donc, c'est forcément des contenus qui peuvent te faire connaître et qui peuvent t'apporter régulièrement donc de nouvelles personnes versus des posts Instagram qui en fait sont très éphémères et qui du coup vont disparaître quasiment aussitôt après que tu les aies créés. Alors même si aujourd'hui tu peux en faire des guides et leur donner peut-être vie un peu plus longtemps, mais en tout cas en tapant certains mots-clés sur Google, on ne tombera pas sur ton post Instagram alors qu'on va peut-être tomber sur ton podcast, ta vidéo YouTube ou ton article de blog. Donc, comme effectivement aujourd'hui quand on cherche quelque chose, notre premier réflexe c'est de googliser, tu as forcément des chances d'être trouvé en créant du contenu référençable. Donc, pour ma part, c'est le podcast qui m'a offert cette visibilité. J'ai d'ailleurs créé le compte Instagram Yogi Biz Coaching en décembre 2019, qui s'appelait Yoga Business Coaching à l'époque. Et je publiais régulièrement, mais je n'ai pas décollé du jour au lendemain. Bon, ça, c'est logique, hein, il faut être patiente. En revanche, j'ai bien vu que dès que j'ai créé le podcast, ça a accéléré ma visibilité. Donc vraiment, c'est vraiment le contenu référençable, c'est vraiment une stratégie à avoir dans son business. On ne peut pas se contenter juste d'une présence sur les médias. Et en plus, donc, l'avantage d'un contenu, on va dire, principal comme celui-là, donc un podcast, des vidéos ou un article de blog, c'est justement que ça permet de sortir hein, de ce format carré et ça permet en fait de pouvoir s'exprimer plus longtemps, mieux, de vraiment pouvoir partager son expertise avec plus de détails. Et donc, du coup, ce sont des formats qui vont permettre plus facilement d'asseoir notre autorité dans notre thématique, bien plus qu'au travers de simples posts avec une légende de quelques mots. Donc, Ces contenus ensuite effectivement peuvent être relayés par contre en fait hein, sur Instagram en story etc et du coup c'est là où on va aussi gagner en visibilité mais pas l'inverse en fait hein. C'est le contenu principal référençable d'abord et ce contenu là qui va être relayé sur Instagram et qui va nous faire connaître. Et si je dis que ça m'a permis de doubler ma liste email, c'est parce qu'il y a eu un deuxième effet qui se coule en fait à cette création de contenu principal, donc qui était pour moi le podcast, qui est pour moi le podcast, c'est que ce contenu plus expert en fait m'a permis d'être découverte par des marques. Et je parlerai par exemple aujourd'hui de mon partenaire qui est Eversports. Alors quand je dis mon partenaire, on n'est pas finalement partenaire, mais en tout cas on fait des collabs ensemble régulièrement. Et justement, Eversports, du coup, m'a sollicité et m'a ouvert la porte à une collaboration. Et ça s'est fait en fait assez rapidement. Et là, on en revient donc au sujet des collaborations. Eversports a vu l'opportunité en fait de m'inviter à créer une masterclass pour son audience qui est similaire à la mienne. Donc une masterclass entre autres sur Instagram, qui est d'ailleurs disponible dans ma bio sur mon compte Instagram. Et j'ai donc donné cette masterclass et en échange de cette création de contenu de valeur que j'ai fait pour Eversports, eh bien, j'ai bénéficié de leur visibilité et ça m'a amené, alors de mémoire à l'époque, à peu près 300 leads, donc 300 adresses mail finalement qualifiées, des gens, une audience qualifiée. Donc voilà comment ma stratégie de contenu principale finalement, qui est mon podcast, non seulement m'a aidé à accélérer ma visibilité, mais m'a permis de doubler ma liste email quelques mois seulement après mon début d'activité, grâce à des répercussions, en fait un effet boule de neige du fait d'avoir attiré des partenaires pour des collaborations. Donc voilà pour la première stratégie. Une stratégie de contenu référencé qui permet d'asseoir son autorité, de montrer son expertise, qui est aussi référencé, donc qui peut toujours amener de nouvelles personnes à nous connaître et qui peut nous ouvrir la porte donc plus facilement forcément à des collaborations qu'un simple compte Instagram. Stratégie numéro 2, comment j'ai eu mon premier article dans la presse ? Alors là, je dirais que c'est un mélange entre stratégie de collaboration, dont on a pas mal parlé ces derniers temps suite au dernier épisode de podcast avec Mathilde Yogom. J'ai fait pas mal de posts justement à la suite sur Instagram. Donc un mélange de stratégie de collaboration et de simplement oser. C'est pour ça que c'était aussi important que je vous en parle en préambule de cet épisode. Et donc, pour la petite histoire, donc j'ai eu mon premier article dans la presse spécialisée dans le magazine Esprit Yoga. Je lisais régulièrement ce magazine et j'aimais forcément particulièrement la rubrique Yoga Cash. Et je me disais que j'aimerais bien m'y retrouver un jour. En tout cas, je pensais y avoir ma place en toute humilité. Mais voilà, je trouvais que YogiBiz Podcast, ça allait bien avec cette rubrique Yoga Cash. Et alors, on peut dire que j'ai manifesté et visualisé ce souhait, mais même si j'ai fait confiance en l'univers, je suis allée quand même un petit peu plus loin dans mes actions. Et pour me faire connaître de la marque ou reconnaître, j'ai commencé déjà par intégrer le hashtag Esprit Yoga, Esprit Yoga Magazine aussi parfois, dans mes posts. Donc voilà, c'est une mini action, une petite chose toute simple, mais de manière assez régulière et particulièrement justement lorsque je postais un nouvel épisode de podcast. Parce que pour moi, c'était YogiBiz Podcast qui avait tout son sens dans cette rubrique. Du coup, j'ai associé mes posts, comme par exemple mes audiogrammes quand je lance un nouveau podcast, avec le hashtag Esprit Yoga. Donc ça, c'est une des toutes petites actions que j'ai menées comme ça, semaine après semaine, tranquillement. Et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis allée voir toutes les personnes qui contribuent à la rédaction de ce magazine. Donc souvent, on a les portraits des gens qui contribuent, qui font des articles, des séances de yoga, etc. Parce que forcément, ça veut dire que c'est des gens aussi qui peuvent faire partie, enfin qui sont pertinents pour moi dans mon audience. Et donc, je me suis intéressée à leurs comptes. Je me suis abonnée d'ailleurs à la majorité de ces comptes-là. Et alors, j'ai pas été vraiment hyper active, j'ai pas forcément interagi, je les ai pas tagués, j'ai pas été intrusive en fait, mais j'ai simplement suivi ces comptes et aussi en m'abonnant à leurs comptes, c'est aussi montrer que j'existe, que je propose quelque chose pour les profs de yoga, que je propose quelque chose dans l'univers du business du yoga. Et puis un jour, j'ai reçu un message de la marque qui m'a proposé de parler de mon podcast dans la rubrique Yoga Cash. Voilà comment ça s'est fait. Donc ça n'a pas été une démarche active de ma part, ça aurait pu finalement, mais je l'ai pas fait à l'époque. En revanche, vous voyez, j'ai quand même mené quelques actions en me disant, bah doucement, c'est vraiment assez subtil, je vais peut-être me faire connaître, montrer que j'existe. Parce que finalement, tout le monde ne sait pas encore que YogiBiz Podcast existe. Mathilde de Yogom, par exemple, ne connaissait pas YogiBiz Podcast il y a quelques semaines encore. Donc voilà, pourtant, on est dans le même univers, mais chacun est pris aussi dans son quotidien. Et donc, on découvre toujours de nouvelles choses. Et donc, je me suis juste dit, ok, je vais mener des petites actions pour me faire découvrir, me faire connaître peut-être. Voilà, donc je suis pas allée plus loin. Alors, loi de l'attraction ou stratégie de collaboration, tout en finesse, mais authentique et efficace, à vous de choisir. En tout cas, ça m'a pas apporté un énorme gain de visibilité, puisque j'imagine que l'audience d'Esprit Yoga est aussi beaucoup constituée de pratiquants de yoga, donc d'élèves et pas forcément de profs, mais peut-être de futurs profs. Ok, mais j'ai quand même eu bien évidemment quelques répercussions et au-delà d'un simple, on va dire, développement justement, enfin, augmentation de nombre d'abonnés ou autre. Cet article m'a surtout offert en fait un super marqueur de crédibilité pour ma communication. C'est-à-dire que maintenant, sur un site ou dans ma communication, je peux mettre en avant le fait que j'ai été vue dans la presse, dans Esprit Yoga, etc. Ou en tout cas mon podcast. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut retenir en fait, hein, c'est que c'est hyper important de connecter en fait avec des personnes qui sont dans la même thématique que soi, qui ont la même audience ou une audience pertinente pour soi et que bien sûr, hein, par contre, c'est sûr que c'est encore plus simple quand on a un positionnement clair. Et oui, on en revient toujours à cette histoire de niche, mais évidemment que c'est le fait d'être... si j'étais juste dans le marketing digital, je suis pas sûre qu'on aurait parlé un jour de moi dans quelques magazines que ce soit, parce que finalement, des gens dans le marketing digital, il y en a pléthore. Alors que marketing digital pour les profs de yoga, évidemment, du coup, c'est beaucoup plus facile aussi d'attirer des collaborations. Donc voilà pour la stratégie numéro 2, comment j'ai eu mon premier article dans la presse. Et puis la dernière stratégie, donc stratégie numéro 3, comment j'ai doublé mon nombre de followers Instagram grâce à un challenge. Alors ça, j'en ai jamais parlé et pour cause, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, mais pas sur YogiBiz Coaching, ça n'aurait rien à faire là, que j'ai expérimenté sur mon compte de yoga perso. En fait, quelques mois seulement après avoir découvert le yoga, ça a tellement été une révélation pour moi que j'avais envie de mettre tout le monde au yoga. Bon, je pense que tu connais bien ça. Et donc, pour m'impliquer dans ma pratique au quotidien, continuer d'apprendre et un petit peu partager mes tribulations, comme on dit, je me suis dit que j'allais proposer des pratiques de yoga avec moi de 15 minutes par jour pendant un mois. Donc, l'idée, c'était que je voulais que les gens soit se mettre au yoga, soit en tout cas pratique des mouvements, quelque chose de physique pendant 15 minutes par jour et pendant donc un mois. Et alors, c'est vrai que je l'ai aussi fait parce qu'à l'époque, c'était en septembre 2019 et j'étais à fond en train de travailler sur le projet YogiBiz. Je pense que j'en étais à l'époque à définir tous mes personas et je testais des choses aussi justement dans l'optique de les enseigner ensuite ou de dire « Ok, ça marche, ça marche pas, etc. » Et donc, aussi peu professionnel, entre guillemets, que ce challenge ait été, eh ben, en fait, ça a été un vrai succès et ce challenge, clairement, m'a permis de dépasser sur mon compte perso la barre des 1000 followers. Et alors, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a eu un push d'un coup. J'ai clairement doublé ma communauté, en fait, à l'époque. Et du coup, avec des personnes finalement qualifiées, puisque j'avais la volonté d'orienter mon compte vers de la pratique de yoga. Parce que je vous rappelle que derrière, j'avais aussi le projet de passer mon yoga teacher training, etc., etc. J'avais le projet de créer un programme en ligne. Enfin bref, donc du coup, ça m'a vraiment permis à la fois de doubler ma communauté, mais en plus de la doubler avec une audience vraiment qualifiée. Et en fait, il se trouve que des semaines, voire des mois après, et encore aujourd'hui, parce qu'il y a 3 jours seulement, j'ai reçu un message, enfin j'étais taguée en story, d'une personne qui arrive sur ce challenge et qui est en train de le suivre. Donc comme quoi, c'est incroyable. Et c'est là où j'ai compris vraiment la puissance du challenge, des challenges. Et que même s'il y a certainement plus de yoga partout en ligne aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque, puisque donc c'était un challenge que j'avais lancé en septembre 2019, si ton challenge est spécifique et correspond à ce que ton client idéal veut, alors c'est sûr que c'est un vrai levier pour te faire connaître et développer tes abonnés. Parce que quand les gens participent à une expérience comme celle-ci, qui leur apporte quelque chose, et c'est moi je me souviens, c'est exactement ce qui s'était passé, hein, soit moins mal au dos, j'avais eu des moins stressés, des gens qui ont appris à faire certaines postures et qui pensaient pas en être capables, des gens que ça a juste, à qui ça a juste fait du bien d'avoir un rendez-vous en fait tous les jours pour pratiquer un petit peu. Donc quand les gens participent en fait à une expérience qui leur apporte quelque chose, eh ben ils le partagent et c'est là que ça devient viral. Après, il y a des conditions pour que ce soit efficace, pour que ce soit partagé, évidemment, mais ça peut vite justement devenir viral. Donc, si en plus de ça, tu y ajoutes quelques petites techniques marketing astucieuses, clairement, le challenge peut te permettre de développer à la fois ton audience Instagram, à la fois ton nombre d'abonnés à la liste email et en plus avoir une audience qualifiée dans ta thématique, puisque ton challenge ne sera pas, le sujet de ton challenge ne sera forcément pas défini au hasard. Donc, logiquement, une audience que tu vas réchauffer et qui sera prête derrière à consommer tes offres payantes pour aller plus loin avec toi. Donc, c'est vraiment tout bénef. Alors, c'est d'ailleurs exactement ce qu'on verra dans la formation « Créer et lancer ton challenge de yoga qui convertit ». Donc, on verra bien comment définir le bon sujet pour ton challenge, comment trouver les bons mots pour attirer des participants, comment le promouvoir et comment faire pour qu'il soit justement partagé sur les réseaux au plus grand nombre, comment développer ta liste email grâce à ton challenge et comment convertir tes participants en clients. Donc, si ça t'intéresse d'apprendre à faire tout ça, je te rappelle que tu peux t'inscrire pour y avoir accès en avant-première sur la liste d'attente qui est dans la bio de mon compte Instagram @yogibizcoaching et je vais mettre également le lien dans les notes de cet épisode. En tout cas, cette stratégie vraiment du challenge m'a permis de doubler mon nombre de followers et comme je vous disais tout à l'heure, donc je ne sais plus les comptes exactement que j'avais à l'époque. Mais globalement, ça m'a permis de passer la barre des 1000 followers. Donc probablement que j'étais aux environs de 500 abonnés et que j'ai donc doublé grâce à ce challenge. Donc voilà, je t'ai développé les trois stratégies qui, moi en tout cas, m'ont aidé à développer ma visibilité et à me faire connaître à la fois auprès de mon client idéal, donc auprès de toi, et à la fois auprès de partenaires. Hein, donc moi, je drive les deux objectifs en même temps et tu peux complètement appliquer ça à ton business de yoga. Donc, avoir une stratégie de contenu principale sur un média référencé, apporter de la valeur et du contenu à des partenaires de ta thématique en échange de visibilité auprès de leur audience qui est soit similaire, soit pertinente par rapport à ta thématique. Oser, même de manière douce, te faire connaître ou reconnaître auprès de partenaires avec lesquels tu aimerais collaborer. Et enfin, animer un challenge. Donc, un peu comme on l'a fait en préambule, ce que je te recommande maintenant, c'est de faire le point sur ton objectif. Pourquoi est-ce que tu veux te faire connaître et auprès de qui? Et ensuite, de te fixer un objectif concret. Donc, pour moi, un objectif concret, c'est au-delà de la fameuse définition d'un objectif SMART, c'est un objectif, on va dire, en nombre, donc quantifiable et vérifiable et limité dans le temps. Donc, fixe-toi un objectif concret à atteindre en termes de visibilité, comme par exemple, développer mon nombre d'abonnés Instagram de 50 à 150 abonnés avant fin juin grâce à 3 collaborations et préciser lesquelles, ou encore réaliser 10 ventes de mon atelier à l'issue de mon challenge que je vais faire à telle date, ou encore créer mon podcast pour me positionner comme expert dans ma thématique. Donc là, ça pourrait être créer mon podcast avant fin mai, par exemple, pour me positionner comme expert dans ma thématique. Donc voilà, faire le point donc sur ton objectif, pourquoi te faire connaître et auprès de qui, et ensuite te fixer un objectif concret de ce que tu veux développer, quand, combien. Et voilà, et je pense que tu auras bien travaillé si déjà tu mets tout ça à plat. Donc, bah, c'est à toi de jouer maintenant. Si cet épisode t'a été utile, je serais vraiment super contente que tu le partages en story avec un petit mot ou de lire ton feedback dans les avis Apple Podcast parce que comme tu sais, ça m'aide à faire connaître le podcast. En tout cas, je te dis un grand merci pour ton écoute. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.